Aujourd'hui, Marc Blanchard, vous vous souvenez qu'en février 2020, vous vous souvenez, je m'adresse à vous, Marc Blanchard est venu, juste avant le confinement, nous présenter les canaux de Suez. À notre grande surprise, parce que nous avions entendu parler d'un seul canal, mais il y en avait plusieurs, et ils ont toute une histoire. Aujourd'hui, vous allez nous entretenir de l'histoire extraordinaire d'une des plus grandes villes du monde, une des plus anciennes, une des plus brillantes, Alexandrie. Alexandrie qui fut grecque avant d'être égyptienne. Merci d'être venu jusqu'à nous depuis Rochefort, très belle ville que nous allons avoir peut-être l'occasion de visiter à l'occasion d'une excursion, je le rappelle. Merci de nous être restés fidèles et nous vous donnons la parole.
Bien. Vous pouvez applaudir effectivement la présidente. Maintenant, il me reste être à la hauteur de cette présentation. Donc, merci de m'accueillir pour vous présenter effectivement l'histoire d'une ville mythique à plus d'un titre. Et quand vous voyez cette diapositive initiale, le plan classique en trois parties est évident. J'insisterai bien sûr sur la première partie. Je vais mettre en route mon pointeur. Voilà. Attendez, comme par hasard, je n'ai pas appuyé au bon endroit. Oui, la première partie qui justifie en fait ma présence ici, parce que c'est cette partie qui assure la réputation de la ville. Je passerai beaucoup plus vite sur le millénaire de décadence de cette ville, bien qu'il soit beaucoup plus long, pour insister à nouveau sur le présent de la ville qui nous concerne, en fait, au premier chef. J'essaierai de vous convaincre pourquoi. Alors, nous allons nous transporter dans le temps. En décembre 332 avant Jésus-Christ, un jeune, il a tout juste 25 ans, roi d'un royaume de moyenne importance, la Macédoine, Alexandre, pas encore le grand, mais bientôt. Et vous voyez son royaume, là, ici, au nord de la Grèce. Son père avait dominé la Grèce. Et lui s'est lancé dans une entreprise, mais absolument démente. À savoir, la conquête de la superpuissance de l'époque, l'Empire perse, l'immense Empire perse. Et, à la surprise générale, eh bien, il a commencé par remporter des succès, sinon décisifs, du moins tout à fait importants. Et en décembre, donc 332, il se présente à l'entrée de l'Égypte, après avoir conquis ce que l'on appelle enfin la Turquie continentale asiatique à l'heure actuelle, et puis toute cette partie proche-orientale, donc Syrie, Israël, Palestine, etc. Et quand il se présente en Algérie, eh bien, il est accueilli comme un libérateur, car la domination des Perses en Égypte insupportait le peuple égyptien. Et les Égyptiens lui offrent même le titre de pharaon. Une des premières tâches que va faire Alexandre, c'est de trouver un site pour fonder une ville, Alexandrie, bien évidemment. Alors, il veut un site sur le littoral. Et voici ce qu'il choisit. Là, cette grande tache verte, c'est le delta du Nil, dans sa partie occidentale, hein, à l'ouest. Cette partie, cette image satellite est évidemment récente, à cette époque-là, c'est-à-dire il y a 2300 ans, tout ce vert n'existerait pas. C'était encore le désert. Bon, le delta s'est élargi depuis. Et il choisit ce site, là, très précisément, vous voyez sur un cordon littoral de grès, qui isole un lac, le lac Mareotis, comme l'appelaient les Grecs, Mariout disent les Égyptiens à l'heure actuelle, de la Méditerranée. Auparavant, les deux communiquaient, ce qui fait que ce lac, en fait, est un lac d'eau saumâtre. Très clairement. Et alors, pourquoi choisit-il ce lieu? Eh bien, tout simplement parce que lui, de culture grecque, d'origine macédonienne, mais enfin de culture grecque, eh bien, veut un port d'importance pour pouvoir éventuellement aller dans sa patrie d'origine et communiquer donc avec la Macédoine et la Grèce proprement dite. Voici sur ce schéma le site plus précisément. Alors, le site destiné à être occupé par la ville proprement dite, le voici, c'est à l'intérieur d'ici. Et juste en face de ce site, vous avez l'île de Pharos. Ce mot Pharos tâte évidemment à vos oreilles. Vous savez pourquoi et je vais le rappeler. Il a tout de suite été d'emblée question de construire un pont que les Grecs anciens, enfin que les Alexandrins appelaient l'heptastade, en gros d'un kilomètre 400. Vous voyez, c'est donc la distance entre l'île et le continent, d'un pont pour faire communiquer l'île avec le site proprement dit d'Alexandrie. Le lac Mariout, le lac Mariotis, a peu de profondeur et beaucoup de ses côtes sont en fait, beaucoup de ses rives sont parfaitement désertiques, mais pas toujours. Il y a de la végétation et notamment, il y pousse parfois et avec une certaine abondance, le fameux papyrus. Les 8 d'ailleurs variétés de papyrus, dont les 2 qui permettent, vous savez, de faire des supports sur lesquels on peut écrire, dessiner, si l'on le souhaite. Le lac Mariout était occupé par des petites, enfin plusieurs familles de pêcheurs extrêmement pauvres. Cette région désertique était clairement sous-peuplée. Alors, donc, le site est choisi par Alexandre. Voici le plan qu'il retient. Alors, les savants disent un plan hippodamien. Ça veut tout simplement dire que les rues se coupent à angle droit. Hein, elles sont ou parallèles ou perpendiculaires. Bon, hippodamien, ça pose son homme de dire ça. Peut-être quelques petites précisions. Je rappelle le pont, là, qui rejoint donc la ville à l'île de Pharos. Il n'y avait pas d'eau. Donc, tout de suite, on a envisagé la construction, le creusement d'un canal qui apporte de l'eau douce, quand je dis pas d'eau, c'est pas d'eau douce, hein, de l'eau douce de la branche la plus occidentale du delta du Nil jusqu'à la ville, très précisément, d'Alexandrie. L'eau a toujours été un souci. Je reviendrai sur ce plan. Alors, d'emblée, on a envisagé une voie d'est en ouest, extrêmement large, 30 mètres de large, c'était tout à fait spectaculaire, et la volonté d'Alexandre, c'était de permettre, en cas d'attaque, le long des remparts de la ville, là, qui est destinée donc à la protéger, eh bien, en cas d'attaque, vous avez des chars militaires qui pouvaient, au triple galop, c'est le moment de le dire, se répandre dans la ville et à partir de cette grande artère, aller éventuellement à droite ou à gauche sur les rues perpendiculaires au point très précis où les attaquants portaient leur effort sur le rempart. Donc il y avait tout de suite une vision d'emblée, une vision stratégique pour défendre cette ville. Alexandre ne va pas rester très très longtemps en Égypte, 3 mois tout au plus, donc il ne verra jamais sa ville, tout juste le début des fondations. Il poursuit son destin en achevant la conquête, ce qui va lui demander quelques années, de l'immense empire perse qu'il va conquérir dans son entier, il ira jusqu'à l'Indus indien. Voici des photos, alors une carte postale du début du XXe siècle, le canal Mamoudia, ou le canal Canopi, comme les Grecs l'appelaient plutôt, et c'est le canal d'eau douce qui apporte l'eau du Nil. Voici une photo très très récente, vous voyez qu'en fait ce canal longe le stade de football, le grand stade de football de la ville d'Alexandrie. Alors, le problème de l'eau a été constant. D'emblée, on a... Alors, vous savez que les toits des maisons sont pour l'essentiel des terrasses, en fait. Moins maintenant, mais enfin, au tout début, c'était toujours des terrasses. Donc, c'était facile de recueillir l'eau de pluie. L'eau de pluie n'est pas très, très abondante. Hein. Il pleut à peu près 150 mm d'eau à Alexandrie, disons du mois de novembre au mois de février, en gros. Pour fixer les idées, les géographes déterminent une zone désertique quand il pleut au plus 300 mm d'eau. Donc, c'est la moitié à Alexandrie, c'est clairement dans une zone franchement désertique. Alors, des citernes, en voici une parmi les plus anciennes, vous voyez qu'elle est le décor est d'inspiration égyptienne, très clairement, des citernes tout à fait importantes qui permettent de recueillir l'eau des terrasses. Bon, bah, vous imaginez facilement l'eau qui tombe sur la terrasse, un système de canalisation qui conduit l'eau donc dans les citernes. Voici une citerne toulounide qui a été construite au 9e siècle de notre ère sous une dynastie arabe, et vous voyez, c'est une citerne à étage. Autrement dit, les citernes peuvent être tout à fait considérables. Alexandrie a compté jusqu'à 800 citernes à peu près. C'est énorme. Ça a permis à la ville, donc, de vivre de l'eau de pluie pendant plusieurs mois de l'année. C'était insuffisant, mais ça permettait de résoudre au moins partiellement le problème. Et il y a eu une innovation. Alors, parmi l'équipe d'ingénieurs, le mot est un peu anachronique, mais enfin, qui ont construit la ville d'Alexandrie au tout départ, l'équipe mise en place par Alexandre lui-même, il y avait un certain Hipponomos, originaire de Libye, à côté, qui a eu l'idée suivante, qui a suggéré à Alexandre, il dit voilà, avant de construire quoi que ce soit, dans le sous-sol gréseux, construisons des tunnels. Et l'eau, par infiltration, viendra couler dans les tunnels avec une double fonction. La première, assez classique, alimenter les puits qu'il y a dans les différentes villas. Les villas, c'est les villas d'habitation dans la ville d'Alexandrie elle-même. Alimenter les puits, bien sûr. Deuxième fonction, évacuer les eaux usées. Et ça, c'était une innovation. Donc, je vous présente la première innovation dans Alexandrie, construire un réseau d'égouts souterrains pour évacuer les eaux usées. Ça peut paraître peu prestigieux, détrompez-vous, c'est fondamental, c'est ce qui a facilité l'urbanisation de l'humanité tout entière, hein, ce genre d'innovation. Donc c'est absolument considérable. Alexandrie, première ville avec son réseau d'égouts. Auparavant, il y avait l'évacuation des eaux usées, c'était par des voies superficielles. Hein. Donc vous imaginez qu'hygiéniquement, c'était moins bon. Alors, Alexandre, en fait, ne va pas profiter longtemps de sa conquête, hein, à l'âge de 33 ans, il va mourir, bon, des excès, c'était un alcoolique notoire, pour ne pas dire plus, et donc, Alexandre disparaît. Bon, sa succession n'est pas tout à fait simple, mais je passe sur les détails, il y avait un demi-frère, pas d'un niveau intellectuel, pas trop élevé, il avait un fils trop jeune. Ils ont vite été éliminés tous les deux, et finalement, son empire, son très vaste empire, son trop vaste empire, a été partagé entre ses principaux généraux, et 5, 6, qui se sont fait la guerre, à l'exception d'un d'entre eux, c'est celui qui a hérité très précisément de l'Égypte, vous voyez, de cette partie-là d'Israël, de Chypre, de cette partie de la Turquie actuelle, Ptolémée, ami d'enfance et très proche d'Alexandre, et qui a eu l'intelligence de se tenir à l'écart des guerres des autres, et donc il a pu s'installer dans son royaume. Le voici, Ptolémée, Ptolémée Sotère, ça veut dire sauveur, et vous voyez, il était de double culture, à la fois grec, voici, le voici avec son effigie sur un statère. Les statères, c'était les monnaies les plus riches, les plus valeureuses de cette époque, avec un pourcentage d'or et d'argent d'ailleurs. Et comme au début, il a été satrape, autrement dit considéré comme gouverneur, et puis quand il a bien assis son pouvoir, il a décidé qu'il était pharaon, eh bien, il s'est fait représenter de façon classique comme à l'égyptienne, comme un pharaon. Et il a fondé une dynastie qui va régner sur l'Égypte, sur Alexandrie plus précisément, mais sur l'Égypte de façon plus générale, pendant 2 siècles et demi. Tous les rois de cette dynastie s'appellent Ptolémée. Bon, les historiens leur accolent un numéro. En fait, ce qui compte, c'est plutôt l'adjectif. Philadelphe, c'est celui qui aime sa sœur, parce que là, ici, le fils du premier, il a épousé sa sœur. Bon, ça peut vous choquer, d'accord, que ça... mais je tiens à préciser que l'inceste était quand même interdit, sauf dans les familles divines. Ce qui fait que, très clairement, les Ptolémées sont très vite, en tant que pharaon, estimés d'essence divine. Sa sœur Arsinoé, le troisième, Évergète, ça veut dire mécène, quoi, ou sponsor, comme on dit en français maintenant, hein. Philator, le quatrième, c'est celui qui aime son père, bon, etc. On va jusqu'au numéro 12, 13, vers la fin, on ne sait plus trop combien il y en avait. Les deux premiers sont des très grands rois et ont régné longtemps, et c'est eux qui ont assis toute la puissance, toute la richesse d'Alexandrie. Et alors, donc, vous n'aviez rien. Eh bien, ils ont adopté la technique des fondateurs grecs de colonies, la cléroquie. La cléroquie, ça consiste en ceci. Ptolémée, vous l'imaginez, il arrive pour prendre possession de son royaume et de sa capitale avec toute une armée. Une armée, ça coûte cher. Alors, il l'a démobilisé et il a donné à chacun de ses soldats démobilisés une parcelle de terre pour construire une maison à l'intérieur de la ville. Et si c'est à l'extérieur, la parcelle est un petit peu plus grande, du côté du delta par exemple, pour fonder une ferme. Et à charge à ses soldats de trouver une femme et puis de fonder une famille. Et donc, ça, c'est tout à fait intéressant, parce que très vite, on a une population. On a une population de gens capables de défendre la région. Ce sont d'anciens militaires, hein, des vétérans. C'est leur profession, d'une part. Et d'autre part, ils sont motivés, puisqu'ils sont propriétaires. Hein. Donc, tout de suite, d'emblée, ça a été une réussite, cette implantation de l'armée, qui était très très variée, hein, parce qu'il y avait beaucoup de mercenaires, il y avait même des Gaulois dans l'armée de Ptolémée. Et très vite, alors les Ptolémées, que ce soit le premier, que ce soit le second, ont voulu donner une vocation maritime à leur ville. Donc, très bien, mais le site d'Alexandrie souffrait d'un grave handicap. Vous êtes au loin. Le littoral est parfaitement plat, vous ne voyez rien et vous ne savez pas où précisément vous dirigez pour arriver jusqu'au port d'Alexandrie. Donc, il faut construire un repère visible d'assez loin, efficacement. Et donc, c'est l'origine du fameux phare d'Alexandrie. Son nom, parce qu'il était construit, pas tout à fait sur l'île de Pharos, sur un îlot juste à côté. Hein. Alors voici une représentation qui, c'est un petit peu controversé, hein, les représentations, mais il semble que celles-ci reçoivent l'assentiment de la plupart des historiens. 3 étages. Le premier, une espèce de tronc de pyramide très effilé, 70 mètres de haut. Le second, donc base carrée, le second, base octogonale, une trentaine de mètres de haut. Et puis la dernière, une petite tour de base cylindrique, avec là, la chambre à feu. C'est-à-dire qu'on entretenait en permanence un feu qui, donc, était élevé de à près de 120 mètres. Hein. J'ai fait le calcul, ça veut dire que ça pouvait se voir à près de 50 kilomètres au large. Hein. Donc, les bateaux, en voyant la lueur, surtout que dans cette région, le climat n'est pas trop nuageux, n'est pas trop brumeux, et puis même si c'est le cas, ben, ça se lève hein, de temps en temps. Donc, on pouvait... C'était assez remarquable pour que les bateaux arrivent à bon port, au sens premier de l'expression. Alors, il est évident que les conséquences, vous l'imaginez, il fallait une noria constante de... alors j'allais dire d'employés, employons le mot correct, d'esclaves, hein, qui devaient en permanence monter du combustible pour alimenter la chambre à feu, au moins dans au moins la nuit. Alors je vais passer assez rapidement sur l'histoire du phare, parce que la région est sismique, et donc c'est assez fragile. Il y a eu des séismes d'importance suffisante pour endommager et à la fin ruiner le phare. En 365, vous voyez, un raz-de-marée, on dirait tsunami maintenant, etc. En 950-956, 1261, là, on est en pleine période arabe, des bosquets sont détruites, et en 1303, on peut considérer que c'en est fini du phare. Un raz-de-marée, encore une fois, là, tout à fait importante, qui a provoqué des inondations considérables. Les remparts, la ville d'Alexandrie a énormément souffert à cette occasion, et on peut dire que c'en était fini pour le phare. Alors, revenons à notre ville initiale. Il y a eu, d'emblée, les Ptolémées ont voulu la construction d'un chantier naval le plus important du monde méditerranéen, à cette époque-là. Et ça a permis la construction de navires, tant commerciaux que militaires. Et donc commerciaux, richesse de la ville, militaire, puissance des souverains. Voici, alors je parle des bateaux militaires, les birèmes et les trirèmes. Birèmes, vous avez deux rangées de galériens, hein, de rameurs si l'on veut, mais enfin, de galériens de chaque côté. Trirèmes, vous en avez trois. C'était des bateaux très manœuvriers, les meilleurs bateaux à cette époque-là, qui ont assuré aux Ptolémées la domination de toute la Méditerranée orientale. Mais, pas que, Alexandrie a été d'emblée une ville industrieuse. On y fabriquait, alors, du verre. Le verre d'Alexandrie était extrêmement réputé, que ça soit la pâte de verre colorée, hein, assez travaillée ou non, ou alors du verre translucide. Voici de vase, si vous voulez, qu'on a trouvé brisé mais qu'on a pu reconstituer lors de fouilles en Afghanistan, à une époque où l'on pouvait faire des fouilles en Afghanistan. Et c'est des verres de très très belle qualité, hein, c'était ce qui se faisait de mieux à l'époque. On y fabriquait aussi des poteries, alors j'aurais pu vous présenter un certain nombre d'ustensiles, que ça soit du quotidien jusqu'au luxe le plus extrême, mais je me contente de vous présenter cette collection de jeunes femmes, d'élégantes, que j'ai trouvées dans le musée gréco-romain d'Alexandrie, et qui permettent d'ailleurs d'étudier très bien comment les femmes à cette époque-là s'habillaient. Et regardez, celle-ci a quand même un chapeau tout à fait étonnant. Hein. On a presque un chapeau conique que l'on voit au Vietnam, par exemple. Ça veut dire que, de tout temps, la mode avait ses mêmes règles. Il s'agissait d'être original, pour attirer les regards, et si possible, les retenir. Les mosaïques dans les villes dans les salles, les pièces principales des villas, le sol était recouvert de mosaïques. Certaines tout à fait réalistes, regardez cette tête de mégère, hein, ou de méduse, là. Et ces deux-là sont tout à fait intéressantes. Là, vous avez, il est inscrit au pharos. Au pharos, autrement dit, c'est une représentation un petit peu naïve du sommet du phare d'Alexandrie, ici. Et là, vous avez Alexandria, autrement dit, c'est une représentation d'un quartier d'Alexandrie. Regardez ce toutou. On a envie de le caresser. Le réalisme est tout à fait étonnant, hein, la qualité là, ce ne sont pas des ouvriers, ce sont des artistes qui réalisent ce genre de choses. Les tissus, Alexandrie a une réputation aussi tout à fait importante pour les tissus, la qualité des tissus. Alors, c'est assez intéressant, ces deux-là sont évidemment d'inspiration païenne, là vous avez même un satyre, peut-être le dieu Pan, enfin je ne sais pas, et tandis que ces deux-là sont d'inspiration chrétienne, ça représente le sacrifice d'Abraham, hein, vous voyez, Abraham, il est prêt à sacrifier Isaac, mais Dieu merci, c'est le moment de le dire, l'ange avec sa main retiendra le geste fatal, ce qui veut dire que durant la période chrétienne, j'aurai l'occasion d'en reparler, d'Alexandrie, les tissus, la réputation des tissus était à son sommet. Alexandrie ont travaillé aussi la métallurgie. Alors, là encore, pourrais vous présenter des ustensiles divers et variés. Je vais me contenter des pièces. Pourquoi ? Ça a un certain nombre d'intérêts. Voici les premières pièces en service à Alexandrie, à l'effigie d'Alexandre. Hein. Et puis quand Ptolémée Ier s'est senti assez fort dans son pouvoir, eh bien, sur les pièces, c'était son effigie, et Alexandre était réduit aux oboles, la mitraille. Hein. Donc c'est très symbolique, hein, ce genre de choses. Regardez ce statère, là encore, hein, je rappelle, statère, c'était les pièces les plus chères, de Ptolémée Latyros, ça veut dire pois chiche, il avait un grain de beauté assez considérable, de l'autre côté, hein, de l'autre profil, là il montre son bon profil. La qualité de cette pièce montre qu'elle n'a pratiquement pas servi, on l'a trouvé presque à la sortie de l'atelier de Monet. Et puis là, ben, vous avez des pièces d'une certaine Cléopâtre, j'aurai l'occasion d'en reparler, rassurez-vous, c'est la dernière souveraine de la dynastie, la fameuse Cléopâtre. Alors, je parle de ça parce que les Ptolémées exigeaient que toutes les transactions commerciales se fassent avec des pièces à leur effigie, ce qui leur permettrait de contrôler toute opération commerciale et puis ben, de taxer comme il convient. C'était une source de revenus tout à fait importante. Et puis deuxième chose, eh bien, comme toujours, on pouvait faire varier le taux d'or ou d'argent contenu dans les différentes pièces et donc manipuler la valeur. On n'a rien inventé. Maintenant, ce sont les billets. La vie des Alexandrins. Alexandrie étant un port, eh bien, il faut avouer que la réputation de la vie quotidienne n'était pas, comment dirais-je, de la plus haute vertu. Voici, regardez ce personnage-là qui est représenté dans une mosaïque et qui réclame à boire, alors que manifestement, il n'en est pas à son premier verre. Il y avait une ville voisine qui s'appelait Canope. Alors là, Canope, c'était même une réputation encore pire. C'était carrément quand on voulait batifoler, aller à Canope, c'était un proverbe chez les Alexandrins. C'était prendre du temps un petit peu particulier, si je puis dire. Voyez, à Tripot. Voici une image de Tripot. Vous voyez ce jeune homme, là, qui, sans doute, est à la bourse bien garnie. Et puis, deux malandrins, regardez leur regard en coin. Hein. Tout le monde joue au dé. Vraisemblablement, les dés sont pipés. Hein. C'est vraisemblable. Mais, comme c'était une ville et Madame la Présidente l'a rappelé, de culture grecque, eh bien, les sports étaient tout à fait à l'honneur. Hein. Tous les sports classiques que l'on peut trouver dans le monde grec. Je manque un peu de documents, mais les femmes aussi s'adonnaient au sport, hein, au jeu de balle, au jeu de la course, des rubans, etc. Enfin bon, bref, c'était tout à fait important dans la vie des Alexandrins. Des esclaves. Alors, il faut savoir que à peu près un siècle et demi après la création de la ville avait déjà officiellement 300 000 habitants. C'était énorme. Mais il faut savoir que les esclaves n'étaient pas comptabilisés. Esclaves, c'était pas des êtres humains, quoi, véritablement. Et comme on pense qu'il y avait autant d'esclaves que de personnes libres, donc au sens du 21e siècle, c'est 600 000 habitants qu'il faut comptabiliser à Alexandrie, disons dans les années 250 avant notre ère, voire 200. C'était plus, pendant quelques décennies, c'était plus que Rome à cette époque-là. Autrement dit, pendant quelques décennies, Alexandrie a été la ville la plus populeuse du monde méditerranéen. Peut-être même du monde tout court. Ça, cela reste à prouver. Alors, vous voyez les esclaves. Là, vous avez les esclaves de rue. Alors là, c'était le prolétariat le plus défavorisé. Hein. Là, vous avez un jeune adolescent qui porte les armes de son maître, un militaire démobilisé, là. Et puis là, vous avez des servantes qui servent leur maîtresse. Ça peut être presque favorable. Hein. Parce que si la servante réussit à gagner la confiance de sa maîtresse, eh bien, sa situation pouvait être assez enviable. Elle pouvait même éventuellement être affranchie et pouvoir se marier avec une dot offerte par sa maîtresse, c'est toute une question de relation, évidemment. Mais, et c'est peut-être pour ça que je suis là, Alexandrie va avoir une réputation intellectuelle hors du commun. C'est dû à Démétrios de Phalère. Alors, qui est ce Démétrios de Phalère, ci-devant tyran à Athènes. Alors le mot tyran, vous ne l'entendez pas comme on peut l'entendre, et même malheureusement dans une actualité brûlante. Si vous voyez à quoi je fais allusion, vous avez sans doute raison. Eh bien, Démétrios de Phalère avait donc des responsabilités politiques à Athènes, et puis pour diverses raisons, il a dû s'exiler, il a été chassé de sa ville. Donc il a voulu se venger d'Athènes. Et il est venu se réfugier à Alexandrie, il a proposé au premier Ptolémée de rivaliser avec Athènes et de faire en sorte qu'Alexandrie soit une capitale intellectuelle du premier ordre. Donc il a proposé de fonder le musée. Alors le musée, là encore, vous ne l'entendez pas dans son acception actuelle, c'est tout simplement un lieu où l'on honore les muses, les déesses des savoirs, de la connaissance et des arts, les 9 déesses. Alors, voici une reconstitution du musée, là encore, ça peut faire l'objet de controverses, mais il semble que celle-ci soit à peu près vraisemblable. Vous avez deux ailes avec des salles et des couloirs, parce qu'en fait les échanges intellectuels se faisaient beaucoup en se promenant, hein, en discutant oralement. Et dans le fond, vous avez la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, qui en fait ne contenait pas des livres au sens actuel, mais bel et bien des rouleaux. C'était la façon, c'était le support sur lequel on écrivait. La bibliothèque a compté plusieurs centaines de milliers de rouleaux. Et alors c'est là où le papyrus a trouvé tout son intérêt, bien évidemment. Et il fallait, la bibliothèque consommait énormément de papyrus pour fabriquer des rouleaux. La volonté, c'est essentiellement le deuxième Ptolémée, pour alimenter sa bibliothèque, dès qu'un bateau arrivait dans le port d'Alexandrie, s'il y avait des rouleaux, ils étaient confisqués jusqu'à ce qu'on les recopie, et puis on leur rendait souvent la copie d'ailleurs, pour garder l'original. Hein. Mais enfin, ça, c'est une autre chose. Alors, ce qui fait que la bibliothèque a accumulé, ou parfois à prix d'or, Ptolémée achetait des rouleaux quand il le voulait, donc en devenir propriétaire pour sa bibliothèque. Alors, ça a été aussi une concentration. Il payait les grands intellectuels pour qu'ils viennent travailler au musée à Alexandrie. Alors, je pourrais en citer plusieurs, ont des noms qui ne disent plus grand-chose. Et je vais citer Calimaque qui était, je crois, le troisième directeur. Le terme est totalement anachronique, mais enfin, bon, responsable de la bibliothèque. Et il y avait déjà tellement de rouleaux que Calimaque a réfléchi au classement des rouleaux. On peut dire que c'est le premier bibliothécaire, véritablement, celui qui a créé, ce métier. Alors, il faut imaginer quelque chose de tout à fait important. Auparavant, avant la bibliothèque d'Alexandrie, quand on lisait un texte, on ne savait lire que ce que l'on connaissait déjà. La transmission était essentiellement orale. On ne savait pas lire, on ne savait pas déchiffrer des textes inconnus. Et donc, ça a posé problème, puisque on recevait des rouleaux avec des textes inconnus. Donc, il a fallu trouver le moyen de lire des nouveaux textes. Et pour cela, eh bien, il a fallu inventer la ponctuation. Comme on connaissait les textes, auparavant, ce n'était pas la peine de mettre de la ponctuation. Quand on ne connaît pas les textes, bien, il faut séparer les phrases, éventuellement des morceaux de phrases, etc. Et c'est pour ça que j'ai joué dans le titre un petit peu sur la ponctuation, car on a inventé le concept de ponctuation à Alexandrie. En outre, comme on avait des textes de différentes langues, donc il a fallu que les Ptolémées embauchent en quelque sorte des traducteurs. On a fait appel à des érudits, des intellectuels de différents pays qui étaient capables de maîtriser des langues que l'on ne connaissait pas. Et ensuite, il a fallu, vous savez que d'une région à l'autre, par exemple, ou alors, et a fortiori éventuellement d'un pays à l'autre, eh bien les prononciations diffèrent. Si vous voulez apprendre le vietnamien, sachez qu'il y a à peu près 8 façons de prononcer la lettre A, et il faut savoir les distinguer, parce que sinon, ça peut être une catastrophe. J'ai essayé d'apprendre le vietnamien, je n'ai pas pu être capable de distinguer les différentes façons de prononcer la lettre A. Et pour souligner les différentes façons de prononcer la lettre A, par exemple, qu'est-ce qu'on fait en France, en français ? L'accentuation. Qui distingue donc les A, des A, des... enfin bon, etc. Eh bien donc, on a inventé à Alexandrie aussi un système d'accentuation. Et la ponctuation et l'accentuation n'ont rien à voir avec les nôtres, mais le principe était là. C'est dire l'importance de ces choses. Et autre chose, dans les rouleaux, vous aviez une trentaine de versions de l'Iliade, une trentaine de versions de l'Odyssée. Et ces versions n'étaient pas totalement authentiques. Grande discussion, quelle est la bonne version, quelle est la version authentique, où sont les erreurs, etc. Bon, bref, vous voyez le genre de débat qu'il a fallu donc aborder à cette occasion. Et alors, les savants se sont partagés en différentes disciplines. La philosophie. Le premier philosophe embauché par les Ptolémées, c'est Straton de Lampsaque. Honnêtement, vous avez le droit de ne pas le connaître. Hein. C'était un Athénien et qui avait la bonne réputation. Bon, Aristote était mort, aussi auparavant Socrate, Platon, excusez du peu. Eh bien, Straton de Lampsaque était un disciple d'Aristote immédiat. Ptolémée lui a donné une somme assez considérable pour qu'il vienne à Alexandrie. Il est venu à Alexandrie. Les Athéniens ont eu très peur. Ils se sont dit, oh là là, peut-être que l'école d'Alexandrie va rivaliser avec la nôtre. Alors, ils ont offert à Straton de Lampsaque la direction du lycée, le lycée avec un L majuscule, le lycée fondé par Platon et dirigé ensuite par Aristote. Straton de Lampsaque est donc retourné à Athènes. Il était beaucoup moins payé, mais s'inscrire dans la succession immédiate de Platon, d'Aristote, ça le satisferait. Petite méditation que je vous invite à faire. Vous voyez, il y a 23 siècles, les cités les plus riches, les plus cossues, se disputaient les grands intellectuels, les philosophes. À l'heure actuelle, nos cités se disputent les footballeurs, éventuellement les rugbyman. Je vous laisse donc méditer sur les progrès accomplis depuis 2300 ans. L'histoire. Peut-être un seul historien, tout simplement un certain Manéthon, qui en fait était un scribe égyptien, mais qui maîtrisait parfaitement le grec, et Ptolémée II, cette fois-ci, a voulu connaître l'histoire des Égyptiens. Il ignorait toute cette histoire, c'était ses sujets, et donc il a commandé à Manéthon une histoire complète de la période pharaonique. Manéthon a écrit une liste des pharaons qu'il a partagé en 31 dynasties, c'est toujours le cas. Des historiens actuels, ils respectent donc cette succession de 31 dynasties, même si la liste de Manéthon, depuis, a été corrigée, modifiée, bon, ce qui est tout à fait normal, on a fait des progrès dans l'histoire pharaonique. En science, je ne vais citer que deux personnages, un certain Ératosthène, qui a été un temps responsable de la bibliothèque, qui a trouvé des résultats, des théorèmes, je suis de formation mathématicienne, des théorèmes d'arithmétique, donc enseignés toujours à l'heure actuelle, au collège par exemple. Et regardez, c'est lui qui, le premier, en fait, dans l'état actuel de nos connaissances, qui a mesuré la circonférence de la Terre à partir d'un petit raisonnement que pourraient comprendre des collégiens ou collégiennes de quatrième. Et il a trouvé un résultat tout à fait conforme au résultat mesuré, en gros 40 000 kilomètres, hein, la longueur de la circonférence. Et c'est comme ça que le maître a été d'ailleurs défini. Hein. Le deuxième personnage que je vais citer, Claude Ptolémée. Alors en fait, il n'est pas du tout de la famille royale. Il est venu après Ptolémée, c'est de la période romaine. Il date en fait pour l'essentiel du deuxième siècle de notre ère. Eh bien, c'est lui le premier qui a dessiné une carte du monde. Regardez, là, le monde méditerranéen est assez précisément représenté, hein, même si la mer d'Azov dont on parle à l'heure actuelle est un petit peu plus importante. Vous avez les îles britanniques, vous avez la péninsule du Danemark. Bon, et puis là, vous avez l'océan Indien. Ceylan est peut-être un petit peu grand. L'océan Indien, ben, il se termine, c'est une grande mer close. Bon, c'est pas tout à fait exact, mais enfin, c'est la première représentation du monde. Et ce qu'on ne dit pas dans cette représentation, c'est que le choix de Ptolémée de représenter comme ceci une portion de planisphère, eh bien, c'est la façon qui déforme le moins la représentation du globe terrestre. Tout le problème du planisphère, vous savez, c'est les pôles sont surdimensionnés quand on le représente tout à fait normalement. Eh bien là, mathématiquement, c'est tout à fait fort, hein, ce choix. Ptolémée est le premier aussi, Claude Ptolémée, le premier qui a conçu une représentation du cosmos. Alors évidemment, la Terre est au centre, hein, c'est la Lune tourne autour, les planètes, bon, c'est un petit peu compliqué de représenter leur mouvement, donc elles ont une orbite secondaire sur leur orbite principale, et puis, pardon, tout autour, vous avez les étoiles, le Soleil aussi qui apparaît. Bon, ça va durer quand même 16 siècles à peu près, hein, cette représentation, et ça sera Copernic qui trouvera quelque chose de mieux avant qu'on ait une autre représentation, enfin, du monde. Alors, en dehors, il y a eu des intellectuels en dehors du musée, les gnostiques. Le mouvement de la gnose, c'était un mouvement ésotérique qui se transmettait donc d'initié à disciple, sans vulgarisation. Hein. Alors, je cite Marie la Juive, c'était en fait une chimiste, elle a fait des expériences, et c'est elle qui a inventé le bain-marie. Vous avez, je pense, un certain nombre d'entre vous, les dames et les messieurs, qui font la cuisine, je ne me mets pas dedans, eh bien, vous avez utilisé le bain-marie pour chauffer quelques ingrédients. Je ne sais si vous vous êtes interrogé sur l'origine de l'expression. Rien à voir avec la Notre-Dame chrétienne. Donc, c'est Marie la juive ou la prophétesse qui a inventé ce procédé. Donc, le bain-marie. Je vais citer aussi Zosime. Zosime de Panopolis, c'était une ville d'Égypte hellénisée. C'est lui qui a inventé l'alambic. Alors, bon, est-ce que c'est une invention dont il faut se réjouir? Oui, bon, je vous laisse juger. Il est évident que, puisque dans la région, cela vous concerne, depuis les temps préhistoriques, on savait distiller. La consommation d'alcool, c'est vieux comme le monde. Mais avec l'alambic, on augmentait le rendement de l'alcool. La médecine. Alors, Alexandrie a eu l'école de médecine, les médecins d'Alexandrie ont eu une réputation, mais vraiment excellente, pendant quasiment 1000 ans, hein, jusqu'au 7e siècle à peu près. Alors, les deux fondateurs de l'école d'Alexandrie sont Hérophile et Érasistrate, qui sont des disciples immédiats d'Hippocrate, le grand médecin de l'Antiquité. Et quand j'ai travaillé donc la question, tous les deux étaient rivaux, hein, ils ne s'entendaient pas du tout, et ils avaient pour volonté de corriger les erreurs de leur maître, Hippocrate, et de compléter ce qu'Hippocrate ignorait pour être fidèle à sa pensée. J'ai trouvé que c'était formidable de modernité d'esprit scientifique. Pour être fidèle à son maître, on essaie d'aller plus loin, on essaie de le dépasser. Alors ce sont eux qui ont inventé les règles de dissection et l'anatomie. Ils ont demandé, par exemple, ils demandaient à ce qu'on leur livre les corps des condamnés à mort, bon, bah, qu'ils autopsiaient, très bien. Et puis ils ont voulu aller plus loin. Alors ils ont demandé à ce qu'on leur livre les corps des condamnés à mort, avant l'exécution. Alors, l'admiration que j'avais pour eux quand j'ai appris ça, elle a été un petit peu nuancée, hein, si je puis dire, parce que oui, on imagine ce qui se passe. Eh bien, alors, évidemment, on raisonne en personne du XXIe siècle, parce qu'à cette époque-là, un condamné à mort, quand il était condamné à mort, c'était fini, il n'appartenait plus au monde des vivants. Disons que l'exécution, c'était tout simplement la mise en œuvre d'une décision déjà prise. Donc, il était plus vivant. Mais enfin, bon, néanmoins. Alors, jusqu'au 5e siècle, le musée a eu son importance, avec des savants. Et la dernière représentante, c'est Hypatie. Alors, quand on regarde ce célèbre tableau de Raphaël, l'école d'Athènes, dans lequel il représente 42 personnages qui sont des artistes ou des intellectuels les plus renommés de l'Antiquité. Désolé, mesdames, il n'y a pas parité, parce que il y a 41 hommes et une femme. La voici, elle est là, Hypatie, hein, si je reviens sur le tableau, elle est là, hein, elle est là. Alors Hypatie était une Alexandrine, fille de Théon, enfin, et c'était à la fois une scientifique, une philosophe, et de grande beauté, et qui avait voulu rester vierge. Alors Alexandrie, c'était totalement surprenant pour ne pas dire plus, et cette dame a voulu rester païenne, alors que au 5e siècle, Alexandrie était largement devenue chrétienne. Les païens étaient devenus minoritaires. Alors, ça a choqué, et une bande de fanatiques chrétiens, en 415, s'empare d'Hypatie, l'emmène, la traîne dans une église, la déshabille, la lapide à mort. Scandale. parce que même Hypatie avait pour élève un évêque, futur docteur de l'Église, enfin des éminents ecclésiastiques. L'archevêque d'Alexandrie, d'ailleurs, a puni avec une grande sévérité les responsables de la mort d'Hypatie. Ça a choqué complètement toute Alexandrie, parce que Hypatie était une très très grande dame. Mais c'était la dernière grande figure, disons, intellectuelle d'Alexandrie. Alors, puisque je parle de religion, revenons-y. Au départ, Alexandrie était c'est une ville de culture grecque, vous l'avez dit, donc il y avait des gens pour qui croyaient au Panthéon grec, et puis c'était une ville en Égypte, donc il y avait aussi des Égyptiens, bien évidemment. Hein. Donc, très rapidement, les polythéistes, qu'ils soient grecs et égyptiens, ont accepté de rapprocher les dieux, ce qui fait que Zeus a été rapproché d'Amon-Ré, le dieu principal des Égyptiens. Aphrodite, déesse de la beauté, a été assimilée à Hathor, déesse de la beauté des Égyptiens, qui est représentée d'ailleurs avec des oreilles de vache, parfois d'ailleurs un musée de vache, ce qui veut dire que les canons de la beauté peuvent évoluer au fil du temps. Mais il y avait deux dieux polyades, comme disent les savants, donc autrement dit spécifiques à la ville d'Alexandrie. Sérapis, c'était le dieu principal d'Alexandrie, et son culte était réservé à la ville, et Agathodémon, dieu serpent. Bon, pour des raisons sur lesquelles je passe, des familles d'Alexandrins, l'animal principal de compagnie, c'était un serpent. Et que là aussi, ça évolue. Hein. Et regardez, cette statue parfaitement syncrétique, là encore, on voit à la fois Sérapis associé à Agathodémon. Vous voyez que l'assimilation des dieux chez les polythéistes se fait avec une certaine facilité. Alexandrie a été pendant de longs siècles peut-être la ville au monde où il y avait le plus de juifs. Il y avait tout un quartier juif. Alors, il est normal que les juifs se rassemblent dans un quartier parce qu'ils ont leur temple spécifique, les synagogues, et puis ils ont des commerçants aussi particuliers, hein, des boucheries cachères, par exemple, etc. Bon, bref, donc, pour simple commodité, eh bien, les juifs se rassemblaient dans un quartier et j'étais assez bien toléreux. Bon, on les laissait pratiquer leur religion. Et Ptolémée II, encore, pour connaître la religion juive qui était celle d'un certain nombre de ses sujets, a fait venir 6 érudits de chacune des 12 tribus d'Israël. Il les a fait venir à Alexandrie, il les a fait travailler séparément, et il leur a demandé de traduire leurs textes sacrés. Bon, essentiellement la Torah, pour dire les choses un petit peu vite, et il se trouve qu'au bout de 70 jours, eh bien, chaque groupe est venu avec sa traduction, et on s'est rendu compte que c'était la même, à la virgule près, si je puis dire. C'est donc une seule explication. Elle est divine. Hein. C'est la traduction de la Bible des Septante qui fait encore autorité, même si depuis les exégètes ont pratiqué de nouvelles traductions, peut-être de meilleure qualité, mais elle est encore étudiée en théologie. La conquête romaine. Eh bien, oui, il se passe un certain nombre de choses. Vous savez que, en fait, avant la conquête d'Alexandrie, eh bien, Rome et Carthage se sont disputés la prééminence de la partie occidentale de la Méditerranée. Bon, au bout de la troisième guerre punique, Carthage a été détruite et Rome, donc victorieuse, inévitablement entrait en compétition avec Alexandrie. Alors la compétition, elle s'est déroulée d'abord, en premier temps, au temps de César. Quand César et Pompée se sont disputés la domination du monde romain, eh bien César dominait l'Occident, Pompée l'Orient. On sait que Pompée a fini par être vaincu, il s'est réfugié en Égypte, et Ptolémée XII, un des tout derniers, donc, pour complaire à César, a décapité Pompée quand il est venu se réfugier en Égypte. Alors César est rentré dans une colère noire, la part d'hypocrisie, je ne le sais pas trop, mais il a dit « Comment un barbare se permet de décapiter un citoyen romain de la qualité de Pompée ?» Alors, il est venu en Égypte, et l'Égypte était alors co-dirigée, enfin, il y avait un royaume avec Ptolémée XII qui régnait, et sa sœur, Cléopâtre VII, la grande Cléopâtre. Ils étaient à la fois frères et sœurs et époux. Et la seule question qu'il y avait entre eux, c'était qui empoisonnait l'autre le premier. C'était dire la qualité de relation entre les deux. Alors, César est venu en Égypte et il a pris le parti, et même un petit peu plus, de Cléopâtre. Les deux se sont associés, d'ailleurs le pauvre Ptolémée XII a lutté, hein, d'ailleurs un jour, voici, je vous représente, ça c'est la représentation de Cléopâtre qui est considérée peut-être comme la plus véridique, car elle a été effectuée du vivant de Cléopâtre. Alors je vous laisse trouver les qualificatifs pour le nez de Cléopâtre que vous voulez. En fait, Cléopâtre était sans doute une belle femme, mais peut-être pas si belle que ça. Par contre, tout le monde reconnaissait l'extraordinaire qualité de conversation. Il paraît que Cléopâtre séduisait par la vivacité de son esprit. C'était quelqu'un de tout à fait intelligent qui maîtrisait cette langue à la perfection. C'était une femme brillantissime, hein, Cléopâtre. Elle avait beaucoup d'atouts, si je puis dire. Lors de la guerre fratricide, donc, Ptolémée XII est venu avec ses bateaux dans le port d'Alexandrie, Alexandrie qui était alors tenue par Cléopâtre et César. Et César, pour brûler les bateaux de Ptolémée XII, donc a allumé un incendie. L'incendie s'est répandu et il a brûlé des magasins annexes de la bibliothèque, et on a perdu à peu près 200 000 rouleaux à cette occasion. Et alors après, pour faire plaisir à Cléopâtre, César est allé piller d'autres bibliothèques, Pergame, etc., pour compenser les pertes. Bon, je passe sur les détails. César a achevé la reconquête du monde romain en chassant les derniers Pompéiens, et est venu à Rome. Il n'est pas resté très très longtemps. D'ailleurs, Cléopâtre l'a suivi. Hein. Il n'est pas resté très très longtemps parce que vous savez que il s'est fait poignarder par, entre autres, par Brutus et d'autres sénateurs lors d'une séance au Sénat. Et d'ailleurs, Cléopâtre, quand elle a appris que César était poignardé à mort, elle est vite rentrée à Alexandrie, car elle ne se sentait pas du tout en sécurité à Rome sans son protecteur. Alors, donc, eh bien, le monde romain n'avait plus, il n'y avait plus Pompée, il n'y avait plus César, et il fallait trouver un successeur. Et deux compétiteurs se sont présentés, Octave, le fils adoptif de César, et Marc-Antoine, son lieutenant favori. Octave dominait l'Occident, Marc-Antoine dominait l'Orient. Marc-Antoine a donc été amené à rencontrer Cléopâtre. Cléopâtre a su le convaincre, et même un peu plus, à prendre son parti. Ils sont devenus amants, c'est de notoriété publique, et la querelle entre Octave et Antoine s'est dénouée lors d'une bataille navale, Actium, dans le sud de la mer Adriatique, sur les côtes de la Grèce du Nord, du côté ouest. Bon, défaite totale pour Antoine et Cléopâtre, je passe sur les détails. Voici un tableau qui n'a rien à voir, qui n'a rien d'historique, mais qui représente Antoine qui s'est suicidé avec son épée, bon, le sachant, Cléopâtre, alors il y a deux versions, ou elle a bu un poison, ou vous savez que avec un aspi, elle s'est fait piquer le sein. Bon, bref, en tout cas, elle avait essayé de séduire Octave. Et Octave, oui, il n'avait pas été très très sensible. Octave n'était pas trop attiré vers les femmes. Bon, pauvre Cléopâtre. Alors, ce qui fait que, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous renvoie à la tragédie de Shakespeare, ou au film de Mankiewicz avec Liz Taylor, Richard Burton, Rick Harrison, ou alors à l'album de la bande dessinée des aventures d'Astérix le Gaulois. Je tiens à vous préciser que la véracité historique n'est pas le premier souci de ces différents auteurs. Octave est devenu le maître absolu du monde romain. Il prend le titre d'empereur et en se prénommant Auguste, ce qui fait que l'Empire romain, désormais, au temps d'Octave, le voici, il est en orangé assez foncé, et vous avez un certain nombre de provinces qui sont dites impériales, donc qui appartiennent personnellement à l'empereur. Et c'est le cas de l'Égypte, qui est donc une propriété d'Auguste, ce qui fait qu'Alexandrie rétrograde, cesse d'être la capitale d'un royaume, mais ne devient plutôt que le chef-lieu donc d'une province impériale. Bon, entre-temps, pendant cette période, une petite anecdote appelée à n'avoir aucune conséquence, un certain Jésus de Nazareth est crucifié dans des conditions assez atroces, non loin de Jérusalem, et à la grande surprise, eh bien, ses disciples se répandent dans le monde romain et transmettent sa parole. Et parmi ses disciples, alors vous savez que Pierre, le disciple jugé principal par Jésus, est allé à Rome avec son ami Marc. Pierre a demandé à Marc d'écrire son premier témoignage, le premier évangile, et puis une fois qu'il l'a achevé, il l'a envoyé à Alexandrie pour évangéliser les Égyptiens. Ça ne s'est pas fait de façon très très simple, mais il n'était pas trop mal reçu. D'abord, on pensait que c'était une secte juive, cette nouvelle croyance. Regardez, Isis allaitant Horus. Bah, ça se rapproche de la Vierge à l'enfant, bien évidemment. Regardez cette croix ankh qui, depuis la plus haute antiquité pharaonique, était un symbole de vie. C'est cruciforme, donc ça s'assimile aisément dans le christianisme. Regardez la pesée des âmes. Voici Anubis qui apporte un défunt, et puis on pèse, vous avez une plume là qui est plus lourde que le cœur du défunt, de façon que Thoth puisse inscrire son nom et l'accueillir au royaume des dieux. Eh bien, c'est évidemment ça, c'est une photo que vous épousez moi, on a prise sur la façade de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges, vous avez la pesée des âmes. Donc, toutes ces occasions de rapprochement font que le christianisme n'est pas vécu comme une religion totalement étrangère, et donc finit petit à petit par gagner les esprits en Égypte et à Alexandrie plus particulièrement. Ceci dit, les empereurs romains se veulent d'essence divine. Et quand, donc, ils veulent qu'on leur offre un culte. Si on ne le fait pas, on est un mauvais citoyen romain. Et notamment les usurpateurs sont très attachés au culte qu'on leur voue, et à certains d'Est qui n'a pas régné longtemps, hein, 3 ans seulement, Dioclétien, lui, a régné plus longtemps, eh bien, ont lancé des persécutions contre ceux qui ne voulaient pas leur rendre un culte. Qui est-ce qui ne voulait pas leur rendre un culte? Les monothéistes, qui disaient, nous, on n'a qu'un seul Dieu, et on n'en veut pas d'autres. Les autres, bon, bah, Dieu de plus, pourquoi pas. Alors, qui sont les monothéistes? Les Juifs, les chrétiens. Donc, c'était eux qui étaient persécutés à cette époque-là. Ça s'est arrêté avec Constantin. Constantin, on ne sait pas s'il était chrétien, sa mère, Hélène, ça c'est sûr. Hein. Mais, en tout cas, et par l'édit de Milan, en 313, il a décrété que chaque citoyen romain était libre de choisir la religion de son choix. C'est un écrit, un édit de tolérance, d'ailleurs, tout à fait intéressant. Donc, fin des persécutions. Ça a duré une bonne 60aine d'années, jusqu'à ce que Théodose, cette fois-ci, en 60 ans, le nombre de chrétiens avait très sérieusement augmenté, était devenu majoritaire dans le monde romain, et Théodose, chrétien, lui, par l'édit de Thessalonique, Salonique à l'heure actuelle en Grèce, eh bien, a voulu que tous ses sujets soient chrétiens. Ce qui fait que ceux qui refusaient de se convertir, les païens, devaient être punis. Les chrétiens, de persécutés auparavant, sont devenus persécuteurs. Et c'est pour ça, c'est dans ce cadre-là, dans cet esprit qu'Hypatie a été lapidé. Je vais passer rapidement sur les docteurs, les pères de l'Église, Alexandrie est la ville où il y a le plus grand nombre de pères de l'Église, de docteurs de l'Église. Je vais simplement citer 2 saints relatifs à la ville. Le premier, saint Jean l'Aumônier. Alors voilà, un médecin très riche qui a consacré une bonne partie de sa fortune à soulager les pauvres. Et notamment, il était effaré par les conditions dans lesquelles les femmes accouchaient. C'était une véritable épreuve, hein, un accouchement. La mère et l'enfant risquaient d'y passer avec une probabilité non négligeable. Donc, il a, le premier, construit un lieu pour que les femmes puissent accoucher dans les meilleures conditions. Autrement dit, à Alexandrie, grâce à lui, on a construit la première maternité. C'est pas rien. Une petite anecdote sur saint Jean l'Aumônier. Donc, il était médecin, et un jour, le patriarche d'Alexandrie est mort. Et le peuple a voulu que ce soit lui qui devienne patriarche d'Alexandrie. Alors, je vais vous donner un exemple. Le patriarche meurt le dimanche. Le lundi, manifestation populaire pour que saint Jean l'Aumônier devienne patriarche. C'est pas possible, il n'est pas prêtre. Alors, le mardi, on l'ordonne prêtre. Bon, tout le monde est content, mais c'est pas suffisant. Encore manifestation le mercredi. Alors le jeudi, on le nomme évêque. Bon, eh oui, mais c'est pas suffisant. Le vendredi, encore manifestation. Alors le samedi, on le nomme patriarche. C'est l'exemple le plus spectaculaire de promotion ecclésiastique de toute l'histoire des religions. Mais je plaisante, mais c'était un grand, grand, grand monsieur. Hein. Deuxième personnalité, Catherine d'Alexandrie, Sainte Catherine d'Alexandrie. Elle est censée avoir vécu au IIe siècle, et elle n'apparaît qu'au IXe siècle. Donc, même le Vatican le reconnaît maintenant, c'est une invention, une pure invention. Toute son histoire, son martyr, hein, est légendaire. Elle a été créée pour lutter contre la mauvaise réputation du meurtre d'Hypatie. Et elle est devenue extrêmement populaire, hein, néanmoins, dans le monde chrétien, après depuis d'autres Sainte Catherine, beaucoup plus historiques. Et vous savez que, alors, donc, d'après la légende, après son martyr, son corps a été transporté sur le sommet du mont Sinaï, au pied duquel il y avait un monastère dédié à la Vierge Marie, et qui, depuis, est dédié à Sainte Catherine, le célèbre monastère Sainte Catherine, qui n'est pas menacé par les fanatiques musulmans, car Mohammed, lors de sa prédication, a dit que les hommes qui vivaient dans ce monastère étaient des hommes de Dieu et qu'il fallait les respecter. Donc, ils sont assez préservés de toute problématique dans ce domaine. Alors, période byzantine. Ben vous, en l'an 395, l'Empire romain se partage en 2, l'Empire d'Occident, qui ne survivra guère plus d'un siècle, et l'Empire d'Orient, dans lequel échoua Alexandrie, qui lui va survivre plus de 1000 ans, plus d'un millénaire, mais cet empire va se réduire comme une peau de chagrin par les conquêtes, essentiellement des conquêtes musulmanes, qu'elles soient arabes ou turques. Et la conquête des Arabes est due à Amr, un bédouin devenu général, qui, au nom de son calife Omar, s'est emparé de l'Égypte, a conquis Alexandrie avec beaucoup de difficultés d'ailleurs. Hein, Alexandrie a résisté à peu près 3 ans, mais n'a pas été aidé par Byzance, donc a fini par céder. Ça a impressionné Amr. D'ailleurs, dans son rapport à son calife, il dit « Voilà, j'ai conquis une ville qui a 4000 palais, 4000 bains publics, 12000 vendeurs d'huile fraîche, 12000 jardiniers, 40000 juifs qui paient tribut, 400 théâtres ou lieux de divertissement. » On voit le bédouin qui est absolument impressionné par la splendeur encore au 8e siècle, donc de cette ville qui, bien qu'en décadence, gardait encore une importance assez remarquable. D'ailleurs, à cette occasion, d'après... Alors, c'est peut-être un petit peu enjolivé, mais Amr a demandé à Omar que faire des rouleaux qu'il y a à la bibliothèque d'Alexandrie. Et Omar lui dit, s'ils sont contraires au Coran, tu les détruis, ce sont des livres néfastes. S'ils sont conformes au Coran... puisque le Coran est insurpassable, ils sont donc inutiles, tu les effaces, tu les détruis. Ce qui fait que tous les rouleaux qui restaient ont été brûlés, c'en était terminé de la bibliothèque d'Alexandrie et du musée de façon là définitive. Alors il s'est passé un certain nombre de choses aussi. Vous savez que la ville de Venise, d'abord au 8e siècle, mais au 9e siècle, 10e siècle, est devenue une ville richissime, tout à fait importante, grâce à son commerce. Et le grand patron de Venise, c'était Saint Théodore Tiron. Bon, méga martyr, certes, mais enfin, de réputation quand même un petit peu secondaire. Donc, le doge de Venise était navré, lui qui voulait rivaliser avec Rome. Rome avait pour patron Saint-Pierre, ça au moins c'est un saint tout à fait conséquent. Il fallait donner un patron à Venise digne de cette ville. Alors il a envoyé deux commerçants, à Alexandrie pour capturer les reliques de sa marque. Ils ont soudoyé des moines, et puis, alors là, on les voit passant la douane, hein, c'est une céramique, une mosaïque qui est dans la basilique Saint-Marc. On les voit passant la douane, et alors ils disent, là, ce sont les douaniers musulmans, ils disent, voilà, dans ce panier, on met de quoi manger pour notre voyage de retour, en bateau, et qu'est-ce qu'il y a? Du chou et du porc, vieille recette vénitienne. Alors, vous voyez les douaniers du porc, allez, fichez le camp, on veut pas vous voir. Et puis, il y avait des os dans le panier. Les os étaient les reliques de sa marque. À la décharge de ces deux personnages, ils avaient substitué les reliques de Saint-Claude à Saint-Marc. Donc, le péché est moins grand, peut-être, hein. Je laisse chacun être jugé. Alors ils arrivent à Venise, le doge les reçoit avec tous les honneurs et décide de construire une basilique en l'honneur de Saint-Marc, basilique que un certain nombre d'entre vous, je suis sûr, ont visité en allant dans la dite ville. En fait, c'est pas la basilique originelle parce que elle a subi un incendie à la fin du Xe siècle, mais la basilique actuelle a été reconstruite à quasi identique. Donc voilà un petit peu pourquoi Saint-Marc, qui était Alexandrie, est devenu le patron de Venise. Alors évidemment, c'est pas très glorieux pour le catholicisme cette histoire, et le pape Paul VI, qui était ci-devant patriarche de Venise, pour se réconcilier avec les Coptes d'Égypte, les chrétiens qui, de tout temps, ont réclamé le retour des reliques de Saint-Marc, décide de restituer en partie les reliques. Et depuis, elles ne reposent pas à Alexandrie, elles reposent dans la cathédrale patriarcale du Caire, les reliques de Saint-Marc sous l'autel. Tout ceci s'est déroulé en juin 1968. Ça a été largement occulté en France. La France avait la tête ailleurs. La France et les Français avaient la tête ailleurs. Longtemps, l'Égypte a été dominée par les Mamelouks, des guerriers qui étaient au départ, qui ont été capturés, c'était des jeunes chrétiens du Caucase ou des Balkans, et qui étaient capturés pour devenir des cavaliers émérites, défenseurs de l'islam. Alors bon, les Mamelouks vivaient au détriment des Égyptiens, il y avait une certaine anarchie, sauf quand il y a eu des chefs, et c'est arrivé de temps en temps, à la poigne suffisante pour mettre tout le monde au pas, mais autrement, ils passaient leur temps à s'allier, se chamailler. Il y avait un certain désordre dont a profité Pierre Ier de Lusignan, roi de Chypre, pas très très loin d'Alexandrie, et qui un jour est venu, alors au nom de la croisade, et là on peut douter un petit peu, s'emparer d'Alexandrie et a laissé, ça s'est déroulé en 1365, a laissé ses soudards faire ce qu'il voulait dans la ville pendant une semaine. Alors là, Alexandrie a énormément souffert. L'actualité nous montre que quand on laisse les soulards faire un petit peu ce qu'ils veulent dans certains endroits, c'est dramatique. Ça a été dramatique pour Alexandrie. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que un Mamelouk, lui par contre, un véritable homme d'État, Kadbaï, pour éviter que ça se reproduise, a construit un fort dans le port d'Alexandrie. Alors voici une image tout à fait actuelle, on peut encore le voir, et d'après la réputation, il aurait utilisé beaucoup de pierres, de moellons qui avaient servi à la construction du phare, quand il était ruiné. Donc cette citadelle trône encore sur le port d'Alexandrie. Alexandrie a été un petit peu oubliée, des voyageurs et des pèlerins en route de l'Europe vers la Terre Sainte s'arrêtait assez souvent à Alexandrie pour essayer d'y trouver des traces de Sainte-Catherine, des traces de Saint-Marc. Il y en avait, il y avait du commerce associé à ces pèlerinages, et je ne vais citer qu'un seul d'entre eux, le Danois Norden, qui nous a laissé des plans et des descriptions tout à fait précises de son voyage. Et regardez ce plan d'Alexandrie. Voici l'Alexandrie antique, il n'y avait plus que des ruines. Et au fil des siècles, autour du pont, se sont accumulés des sédiments qui ont transformé l'île de Pharos en presqu'île, avec un cordon péninsulaire maintenant, dans lequel se sont réfugiés les habitants d'Alexandrie. Alors Alexandrie, à la fin du XVIIIe siècle, a souffert de deux épidémies de peste extrêmement meurtrières. Il n'y avait guère plus que 6000 habitants dans une petite bourgade sans grande importance. Et c'est à cet endroit qu'est venu, quand Bonaparte, à la fin du XVIIIe siècle, est venu conquérir à la tête de l'armée d'Orient l'Égypte, il a d'abord débarqué à Alexandrie. Bonaparte était très fier de sa conquête, tellement fier que, par exemple, dans l'Arc de Triomphe, vous avez un bas-relief qui la représente, cette conquête. Pas du côté de l'avenue des Champs-Élysées, mais de l'autre côté de l'avenue de la Grande Armée, à l'étage. Évidemment, il s'inscrit dans l'histoire, dans la succession, si je puis dire, d'Alexandre le Grand, le fondateur, de César, qui a défendu Alexandrie. Lui, Bonaparte, qui le conquiert, ce n'était pas pour le gêner, l'ennuyer de s'inscrire dans la succession de tels personnages historiques. Bonaparte ne reste que 13 mois en Égypte. Là, c'est une caricature anglaise, là, évidemment, qui n'est pas très favorable à Bonaparte. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose de la part des Anglais. Il sort et il quitte l'Égypte 13 mois après y être arrivé pour vivre l'épopée que vous savez. Et les Français finissent par quitter l'Égypte 2 ans après. Et vous savez que beaucoup de savants de la meilleure qualité accompagnaient Bonaparte. On compte 167 savants qui ont étudié le pays, qui ont pris des notes, qui ont pris des dessins et que les Anglais voulaient réquisitionner quand les Français ont abandonné l'Égypte. Et le porte-parole des savants, Geoffroy Saint-Hilaire, futur, qui était assez jeune à cette époque-là, 27 ans, futur directeur du musée d'histoire naturelle, déclare, en refusant, nous brûlerons nous-mêmes nos richesses, c'est à la célébrité que vous visez, eh bien, comptez sur les souvenirs de l'histoire, vous aurez aussi brûlé une bibliothèque d'Alexandrie. Ce qui veut dire que la bibliothèque et la renommée d'Alexandrie, chez les intellectuels, restaient quelque chose de très vivant. Ça, c'est la négociation s'est dénouée de la façon suivante. Tout ce que les hommes pouvaient emporter avec eux-mêmes, très bien, mais ce qui était trop lourd pour être emporté, les Anglais le gardaient. La pierre de Rosette, qui pèse facilement 80 kilos, était jugée trop lourde, ce qui fait que si vous voulez aller la voir, vous allez au British Museum de Londres. Alors, Alexandrie va renaître grâce à ce personnage, Mohamed Ali, qui vit ce roi, qui va dominer la vie égyptienne pendant la première moitié du XIXe siècle, qui va s'entourer d'ailleurs de Français. C'était un Mamelouk qui a d'abord lutté contre les Français, puis après qui s'est rallié entre les Français, qui est devenu très francophile. Et il s'est entouré de Français pour rénover son pays, et notamment Alexandrie. Vous voyez le Marseillais Coste pour recreuser le canal Mahmoudier, qui apporte le douze du Nil. Bessombert, un angoumoisin, pour construire des navires. Sérisy, quelqu'un d'Abbeville pour l'arsenal. Galice, pour reconstruire les fortifications. Vous voyez que les Français qui avaient envie d'aller travailler à l'étranger, bien, en Égypte, étaient fort bien reçus. Voici Mohamed Ali qui a tout de suite fait construire un palais à Alexandrie. Pourquoi a-t-il voulu reconstruire Alexandrie? Tout simplement parce qu'il fait tellement chaud au Caire que pendant 4 ou 5 mois de l'année, il voulait être un petit peu plus au frais donc à Alexandrie. Donc c'est devenu une capitale d'été. Le voici, alors là c'est une image, enfin un tableau de complaisance, il donne des ordres dans le port. Des successeurs de Mohamed Ali a construit à la fin du XIXe siècle ce palais, en style éclectique, qui est tout à fait important, d'autant plus qu'il est au centre d'un jardin de 150 hectares qui représente un poumon vert extraordinaire pour la ville d'Alexandrie, à l'heure actuelle. Voici la place des consuls. Ce que voulait Mohamed Ali, c'était de faire une ville comme on peut trouver en Europe. Voici la place principale. Là, vous avez une statue équestre de Mohamed Ali, due à Jacques Mar, sculpteur français. C'est lui qui a sculpté le rhinocéros à la façade du musée d'Orsay, si vous le voyez. Le consulat de France a été, et même encore dans son architecture, le plus important consulat au monde de France. Parce que pendant 5 mois de l'année, il a un niveau d'ambassade, puisque le gouvernement est à Alexandrie pendant 5 mois de l'année. En 1882, s'est passé quelque chose, une rixe dans une rue. Vous aviez 3 Européens qui se font, alors pour quelle raison, on ne sait pas trop, attaquer, on ne sait pas qui a commencé d'ailleurs, l'un d'entre eux est blessé, peut-être même à mort, je crois, et un autre Européen tue un ou deux indigènes, ça provoque un soulèvement nationaliste absolument considérable. À cette époque-là, l'Égypte était dominée par les Anglais. Et les Anglais, qui avaient des bateaux militaires dans le port d'Alexandrie ont canonné la ville d'Alexandrie, vous voyez que ça fait du dégât. Les transports publics. Alexandrie a été dotée très très vite d'une gare, petite couleur locale, au lieu de trouver des calèches, on a des poneys et autres chevaux qui accueillent les voyageurs et qui les emmènent chez eux, si on veut. Alexandrie a été dotée de lignes de tramway qui existent encore à l'heure actuelle. Très tôt, beaucoup de villes en Europe n'en avaient pas quand Alexandrie avait déjà la sienne. Édifices religieux, des mosquées, bien sûr, de belles mosquées, de style un petit peu disparate, si vous voulez, parce que comme ça s'est construit sur plusieurs siècles, c'est comme si dans nos églises, et on le voit fréquemment, vous mélangez du roman, du gothique, du baroque, un petit peu. Bon, le résultat peut être tout à fait satisfaisant dans certains cas, d'un point de vue esthétique, si l'on veut. Vous avez une cathédrale grecque orthodoxe parce qu'il y a une minorité grecque assez importante. Là, c'est la cathédrale copte Saint-Marc, la deuxième cathédrale copte du pays, la première étant au Caire, cathédrale patriarcale. Très longtemps, vous avez des églises, alors évidemment, là maintenant, ce n'est plus du tout au service, l'église anglicane, l'église écossaise, c'est du temps où les Britanniques dominaient l'Égypte. Les catholiques, vous aviez une minorité française, certes, et surtout une minorité italienne, également d'ailleurs maltaise, d'importance, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de catholiques. Les fêtes catholiques étaient importantes. Et la synagogue, les juifs se sont maintenus jusqu'en 1956, je vous dirai pourquoi. Regardez là, si vous regardez un petit peu vite, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez à des communiantes? Pas tout à fait, pas tout à fait. Regardez la bannière, c'est l'équivalent juif, bien sûr, ce qui veut dire que les juifs étaient bien implantés à Alexandrie. Vous voyez, d'ailleurs, vous voyez un hôpital de la communauté israélite. Regardez ce tract, il y avait des loges maçonniques à Alexandrie. Très clairement, c'est un signe d'ouverture vers le monde extérieur, dans un pays arabe. Je ne sais plus ce qu'il en est à l'heure actuelle, d'ailleurs. Le marché d'Alexandrie. Le marché d'Alexandrie, vous aviez un marché ultra-moderne, là encore, qu'aurait pu envier beaucoup de villes européennes qui côtoyaient le souk le plus traditionnel. Vous voyez un barbier dans la rue, là, on est au début du XXe siècle, des marchands de fruits. Vous aviez donc un contraste tout à fait considérable dans Alexandrie. La modernité jouxtait la tradition. La bourse. Alors, un immeuble très cossu. La fortune d'Alexandrie, pendant la guerre de sécession, vers les années 1860, le coton américain n'a pratiquement plus été produit. Donc, on a produit du coton d'excellente qualité dans le delta du Nil, et le cours mondial du coton s'établissait dans cet établissement, dans cette bourse Alexandrie, qui a assuré des ressources économiques absolument phénoménales pour la ville. Regardez la poste en 1907 dans la ville d'Alexandrie. Vous n'aviez pas de poste de cette importance dans beaucoup de villes européennes. Les plages. Là, on est entre les deux guerres. 1937-1928, j'ai tiré cette vignette d'un magazine féminin de l'époque, vous voyez une élégante Alexandrine là, et puis regardez cette image, franchement elle aurait pu être prise sur la Côte d'Azur ou la Riviera à cette époque-là. Francophonie, cosmopolitisme, eh bien tout simplement, regardez les collèges, le collège Saint-Marc. Le collège Saint-Marc, collège des frères des écoles chrétiennes. Quand, d'abord, les jésuites ont été expulsés de France, je crois que c'est en 1872, quelque chose comme ça, et ensuite, surtout, séparation de l'Église et de l'État, les congrégations religieuses qui se préoccupaient de l'enseignement scolaire ont été aussi chassées de France, eh bien, elles se sont exilés en Turquie, essentiellement Constantinople, au Liban et en Égypte, le Caire, Alexandrie, Ismaïlia. Et Alexandrie, voici le collège des frères des écoles chrétiennes. Vous avez plus de 2000 élèves encore à l'heure actuelle qui scolarisent de la maternelle au baccalauréat, des garçons ou des filles. Là, ici, ce sont des garçons. Et donc, ce n'est pas négligeable. Regardez le lycée français. En 1920, c'était le lycée le plus important au monde, à l'étranger, du système scolaire français. C'est le roi Fouad qui, en personne, est venu l'inaugurer. Bon, il a été nationalisé par ma sœur en 1956. Une image là qui date de 2014. Bon, mais je pourrais trouver la même collège de la Mère de Dieu. La congrégation de la Mère de Dieu, c'est une congrégation qui a pour vocation de scolariser des jeunes filles. Manifestement, il n'y a pas que des chrétiennes. Mais tous ces établissements scolaires, à l'heure actuelle, alors en 2017, j'ai pas trouvé de chiffres un petit peu plus récents, donc il y a 5 ans, vous avez plus de 12 000 élèves, donc je le répète, de la maternelle jusqu'au baccalauréat, qui sont scolarisés dans des établissements scolaires uniquement dans Alexandrie, et qui en sortent trilingues, arabes, arabisants bien évidemment, anglicisant, anglophone, bien évidemment aussi parce que c'est quand même la langue étrangère la plus répandue, mais francophone. Et le français qu'ils parlent, ou qu'elles parlent, croyez-moi, est de qualité, je n'hésite pas à le dire, peut-être supérieure à celle que l'on peut entendre dans certains coins de la métropole. Bon, depuis, la francophonie, le nombre d'élèves, ces écoles sont considérées par les Égyptiens de grande qualité, donc les effectifs ont tendance à augmenter. Et maintenant, vous avez création de beaucoup d'écoles privées, mais alors au sens commercial le plus strict, hein, et pour lequel il faut payer de façon importante, donc réserver aux gens les plus riches, eh bien des écoles privées qui scolarisent et qui, dans les trois langues que j'ai citées, arabe, anglais, français, les jeunes. Il n'y avait rien dans le supérieur. Alors, le président Mitterrand s'en est ému auprès du président Moubarak. On a créé à Alexandrie l'université Senghor, qui était chargée d'accueillir, donc, des étudiants de l'Afrique en général également, et de l'Égypte en particulier. C'est une demi-réussite à peu près pour l'Afrique en général, mais c'est un échec pour les étudiants égyptiens. Il y a eu de mauvais choix dans les filières de formation. Mais depuis, le président Chirac a créé une université francophone qui, elle, est beaucoup plus prisée, beaucoup mieux ciblée, si je puis dire. Les publications, eh bien, à Alexandrie, à la fin du XIXe siècle, il y avait à peu près une quarantaine de publications francophones, uniquement francophones. Il y avait deux quotidiens, le Phare d'Alexandrie, qui a disparu depuis, et puis le Progrès égyptien. Le Progrès égyptien est toujours publié, donc un quotidien francophone en Égypte. Le tirage est un petit peu diminué, je connais bien ce journal parce que j'ai tenu pendant 4 ans la rubrique scientifique du dit journal. Et alors tout un tas de publications, je ne vais en citer qu'une, celle d'Oda Charaoui, l'égyptienne. Alors Oda Charaoui, vous imaginez une jeune femme à 20 ans mariée de force à son cousin, mais qui avait un tempérament très affirmé, et qui est allé dans les années 1930 à Rome dans un congrès féministe, est revenu et à la douane a arraché son voile. Oh, scandale ! Que faire de cette dame qui arrache son voile ? Les douaniers l'ont arrêtée, elle a protesté, c'est allé jusqu'au roi Fouad, et c'est le roi Fouad qui a dit « relâchez ». Oda Charaoui. Et donc, elle a fondé une revue mensuelle, vous voyez, féministe, sociologie, art, en français. Ce qui montre bien l'importance, donc, de l'influence du français. Alors, des personnalités alexandrines, ben, vous en avez de très connues, hein. Alexandre Lagoya, qui a été un guitariste de réputation mondiale, là, est né à Alexandrie. Youssef Chahine, cinéaste bien connu, primé à Cannes. Omar Sharif, je ne vous le présenterai pas, mesdames. Les Bridgers le connaissent aussi de réputation. Georges Guettari, qui a fait une belle carrière de chanteur d'opérette. Georges Moustaki, de Miss Roussos. Pierre Sabag, il n'est pas né à Alexandrie, il est né en Bretagne, mais la famille Sabag était une famille juive très réputée à Alexandrie. Nagui, donc, que vous pouvez écouter ou voir à la radio ou à la télévision. Bon, il s'est passé en 1956 quelque chose de décisif. Le colonel Nasser, devenu président en 1956, a décidé, et il l'a prononcé lors d'un discours à Alexandrie, de nationaliser le canal de Suez de façon à trouver des financements pour construire le haut barrage d'Assouan. Et ça s'est passé, il y a eu une guerre, évidemment, avec les Français et les Anglais qui dominaient la compagnie du canal de Suez, et les Israéliens, parce que Nasser voulait interdire la navigation sur le canal de Suez aux Israéliens. Guerre, et Nasser, défait militairement, mais vainqueur politiquement, je passe sur les détails, a voulu chasser les étrangers de son pays. Ce qui fait que le cosmopolitisme de la ville d'Alexandrie, on peut dire qu'il a cessé, parce que, en masse, les Français, les Italiens, les Anglais, etc., sont partis. Vestige modernité, si vous allez à Alexandrie à l'heure actuelle, vous avez un vestige célèbre qu'on appelle la colonne de Pompée, ça n'a rien à voir avec Pompée, mais enfin, c'est le dernier vestige du Sérapéon, le temple principal d'Alexandrie où l'on honorait Sérapis, le grand dieu d'Alexandrie, qui miraculeusement, cette colonne, tout à fait imposante, hein, on en parlait tout à l'heure, tout à fait spectaculaire, demeure donc après 23 siècles. Le théâtre romain subsiste assez bien, le théâtre grec a complètement disparu parce que l'urbanisation galopante ne respecte pas toujours les vestiges. Vous pouvez aller à Alexandrie, ne serait-ce que pour voir les nécropoles, c'est tout à fait spectaculaire, même si certaines sont bien endommagées, il y a de beaux restes. Il y a eu des fouilles sous-marines, je pense qu'un certain nombre d'entre vous s'en souviennent. Jean-Yves Empereur, même s'il a été controversé, a trouvé des vestiges tout à fait importants dans autour du port et de l'île de Pharos, et pense d'ailleurs avoir trouvé des restes du phare. Il y a eu un projet, alors il y a quelques années, je pensais que ça allait se réaliser, de musée sous-marin. On voulait reconstituer, ce projet veut reconstituer les fouilles sous-marines telles qu'elles ont été trouvées. Mais bon, ça ne voit pas le jour, et je ne suis pas sûr que ça voit le jour. Architecture au quotidien, eh bien là encore, c'est le président Mitterrand avec Moubarak qui ont construit la Bibliotheca Alexandrina en souvenir de la bibliothèque antique, une des bibliothèques les plus importantes du monde, 8000 ouvrages dans les trois langues classiques, arabe, anglais, français. Tout près de la bibliothèque, vous le voyez ici, vous avez le planétarium, qui est le seul monument au monde totalement sphérique. Vous avez des planétariums, mais il leur manque une petite partie, une calotte sphérique en dessous. C'est le seul qui est totalement sphérique. Donc, il y a eu volonté d'architecture la plus moderne. Bon, malheureusement, il y a aussi parfois ceci. C'est-à-dire que les immeubles montent, la qualité du ciment, du béton n'est pas fameuse, et là, vous avez un immeuble tout simplement en voie de construction, paf, fatigué, qui vient se reposer sur l'immeuble en face. Projet de monorail. Alors, il y a 5 ou 6 ans, je vous aurais dit projet chinois. Maintenant, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. C'est un projet, c'est Siemens et Alstom qui se partagent un petit peu le gâteau, de construction de monorail tout au long du littoral méditerranéen avec partie centrale à Alexandrie. Alexandrie, quand on voit le front de mer, vous avez encore de beaux restes, des palais, de très très belles maisons qui subsistent. Voici donc une vue du port actuel. Toutefois, il faut savoir qu'Alexandrie est attaquée. C'est une des villes les plus menacées par le réchauffement climatique et la montée des eaux qui touche aussi la Méditerranée. Alors, on essaie de faire comme nous en Charente-Maritime pour protéger nos îles de Léron ou de Ré, de mettre du béton. Bon, ça durera ce que ça durera, on sait qui finira par gagner à la fin. Bon, si je veux résumer rapidement, au 1er siècle avant notre ère, 600 000 habitants, à la fin du 18e siècle, 6 000 habitants, et puis maintenant, 6 millions d'habitants. Vous voyez que je joue toujours avec la ponctuation. Conclusion, quel avenir pour Alexandrie? Eh bien, quand on voit ces jeunes filles, vont-elles vers l'avenir, qui en fait est du passé? Cette photo date des années 1960, dans une plage d'Alexandrie. Eh bien, maintenant, c'est plutôt ça, l'actualité. Bien évidemment, qu'en sera-t-il dans l'avenir? C'est sur cette question que permettez-moi de terminer mon propos. Merci. Merci pour votre attention.
Eh bien, le programme était vaste.
Oui.
Mais bravo.
J'ai peut-être
vous l'avez rempli.
Un peu.
Mais je me demandais bien d'ailleurs comment vous alliez faire, très honnêtement, parce que c'est énorme.
Ah, c'est riche, et puis
voilà.
Je vous demande de me croire, j'aurais pu en rajouter. et heureusement, j'ai quelqu'un qui modère ma passion
avec bravo à votre épouse qui vous a accompagné et conseillé. On est toujours heureux de recevoir les couples comme vous qui travaillez ensemble. C'est parfait. Merci, madame, aussi. Voilà. Et alors.
Merci.
Très bien. Alors, écoutez, on va vous libérer. Si vous avez des questions à poser, vous vous rapprocherez. Mais faites attention à l'appareil. Donc, ne précipitez pas.
Je suis à votre disposition si vous le souhaitez. Hein.
Mais on va donc permettre à ceux qui doivent partir de sortir par le fond, s'il vous plaît, comme d'habitude. Et puis, je vous demande d'applaudir encore une fois notre conférencier.
Merci.
Je vais lui demander s'il veut bien nous être encore fidèle une autre fois.
Ah, je crois qu'après avoir entendu ce genre de remerciements, voilà. Il m'est difficile de dire non, et ce sera avec plaisir.
Et merci à tous pour votre attention et la qualité de votre attention. À bientôt.
Merci. Oui.